Louise Michel,
la radio des collégiens de Ganges.
Radio Louise Michel, des blagues, des musiques, des infos, des interviews et encore plein d'autres choses sur Radio Escapade.
Bonjour à tous et à tous, et bienvenue sur Radio Louise Michel, la radio du Collège de Ganges.
On est super contents de vous retrouver pour cette deuxième émission.
Aujourd'hui, vous allez découvrir plein de chroniques passionnantes.
Du sport, de la musique, des animaux, des interviews et même des cloches. Si, si, vous allez voir.
Installez-vous bien, c'est parti pour un nouveau voyage radiophonique. 100% Collège Louise Michel.
Radio Louise Michel, la radio du Collège au CDI.
Hey tout le monde, aujourd'hui on commence avec des sports que vous ne connaissez peut-être pas.
Tu savais Juliana qu'il existe un sport où il faut retenir son souffle et réciter un mot bizarre tout en touchant les adversaires.
Oh non, c'est quoi ce truc?
C'est le kabaddi. Ce sport venu d'Asie oppose deux équipes de 7 joueurs. Le but, toucher les adversaires sans se faire attraper. Et tout ça en répétant kabaddi, kabaddi, sans respirer.
Franchement, il faut avoir du souffle et des nerfs solides.
Et maintenant, passons à un autre sport glacé et précis, le curling.
Ce sport se joue à 4 sur la glace. Il faut faire glisser des pierres et les placer le plus près possible d'une cible, appelée la maison.
Moi, ça me fait penser au patin glace, pas toi?
Si, carrément, sauf que là, il faut balayer devant la pierre.
Allez Juliana, c'est toi de nous présenter un autre sport très surprenant.
Tout à fait. Je vais vous parler du hockey sous-marin. Deux équipes de 6 joueurs dans une piscine en apnée. Le but est de pousser un palet jusqu'à l'autre extrémité avec une petite crosse.
J'avoue, je ne tiendrai pas 2 minutes sous l'eau, moi.
Faut aimer nager et avoir de bons poumons.
Et toi, Juliana, c'est quoi ton sport préféré?
J'aime bien la natation et le curling.
C'est quoi le curling?
C'est un mélange de danse et de gymnastique et de maniement d'un bâton.
Ah ouais, ça a l'air trop stylé. Moi, mon sport préféré, c'est la gym. J'adore faire des figures et bouger dans tous les sens.
Et dans notre chronique, moi, j'ai bien aimé le curling.
Moi aussi. Allez, on espère que ça vous a plu. On continue.
RLM,
la radio du Collège Louise Michel non truqué.
C'est sur Radio Escapade.
Maintenant, une chronique importante présentée par Chloé.
Elle nous parle de l'égalité dans le sport entre les filles et les garçons. Écoutez bien.
Bonjour à tous, je m'appelle Chloé. Aujourd'hui, je vais faire une chronique sur l'égalité entre les filles et les garçons dans le sport. Sur ce sujet, je vais interviewer Stéphanie Grand, 41 ans, qui a été la première fille à prendre une licence de football dans le village de Bayargue à l'est de Montpellier. Puis, elle a été championne de France en 2004 et 2005 avec le Montpellier Héros Sport Club, MHSC. Bonjour Stéphanie, je vais vous poser quelques questions.
Bonjour Chloé.
Avez-vous joué avec une équipe de filles, de garçons ou mixte?
J'ai commencé à jouer au football à l'âge de 6 ans dans une équipe de garçons, puisque j'ai commencé à jouer dans le village où j'ai grandi. Et je jouais avec les garçons, c'était mes camarades de classe.
Avez-vous réussi à vous intégrer aux garçons? Est-ce qu'il y avait beaucoup de critiques?
Alors il est vrai qu'à l'époque, c'était très rare qu'une fille jouait au foot. Donc au début, il y a eu beaucoup de regards étonnés des personnes qui me voyaient pratiquer le football. Et puis très rapidement, j'ai réussi à m'intégrer. Du fait que ça soit mes camarades de classe m'a facilité la tâche.
À quel âge avez-vous commencé à jouer avec des filles? Est-ce que c'était avec le club de Bayargue?
Alors non, j'ai commencé, c'était pas avec le club de Bayargue. J'ai commencé à jouer avec les filles, j'avais 13-14 ans. C'était à l'époque, ça s'appelait Montpellier-le-Crest, qui après a été repris par le Montpellier Héros Sport Club, le MHSC. Et du fait des différences, notamment physiques et physiologiques, arrivées à l'adolescence, il était important d'aller jouer avec des filles, puisque les différences étaient trop importantes avec les garçons.
Pouvez-vous nous citer des joueuses avec laquelle vous avez joué?
Alors j'ai joué avec un certain nombre de filles et de femmes renommées du football féminin français, avec Sarah Mbarek, Ouda Lataf, Camille Abili ou encore Sonia Bonpastor.
Pensez-vous qu'il existe une inégalité entre les filles et les garçons?
Oui, tout à fait, ça existe encore aujourd'hui puisque déjà sur la partie médiatique, on voit très peu de football féminin à la télé, mais également il y a des inégalités au niveau de la rémunération et des statuts, puisque aujourd'hui, à part quelques clubs de Ligue 1, les filles ne sont pas professionnelles et elles ont des rémunérations qui sont bien inférieures à celles qu'on peut retrouver dans le football masculin.
Merci Stéphanie d'avoir répondu à mes questions.
Merci Chloé.
J'ai mené une petite enquête et je me suis rendu compte qu'il existe encore des différences. Par exemple, certains sports sont encore considérés comme pour les garçons ou pour les filles. Et parfois, les filles sont moins encouragées à faire du sport, surtout quand il s'agit des sports dits physiques ou compétitifs. Mais bonne nouvelle, les choses commencent à changer. De plus en plus, les filles font du foot, du rugby, du skate ou du judo. Et les garçons, eux aussi, peuvent faire de la danse ou de la gym, sans qu'on se moque d'eux. C'est l'égalité. Il faut continuer à lutter contre les stéréotypes et à encourager chacun à faire du sport qu'il aime, peu importe s'il est fille ou garçon. Je retiens de cette interview qu'il y a encore des inégalités, mais que petit à petit, ça évolue dans le bon sens. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine fois.
Merci Chloé de nous avoir présenté cette chronique sur les égalités filles-garçons. Et maintenant, c'est Aïcha qui nous présente un sport que beaucoup connaissent, mais qu'on adore toujours, le football.
Elle nous partage sa passion, écoutez bien.
Salut et bienvenue à tous dans ma chronique. Aujourd'hui, je ne vais pas parler en direct, je vais vous passer un petit enregistrement. L'enregistrement va parler du foot. Bon, trêve de blabla, je vous passe l'enregistrement.
Salam Azir, toi c'est quoi ton sport?
Moi je fais du foot à Ganges, à USSM Basseven.
Ok, et t'aimes ton sport?
Ouais, ça va, j'aime bien. Avec mon équipe, on est en D1.
Ça fait combien de temps que tu fais du foot?
Je crois que j'attaque sur ma 4e ou 5e année.
Est-ce que t'as beaucoup de potentiel? Enfin, est-ce que t'as beaucoup de potentiel?
Normal, des fois je peux être fort, des fois je peux être en niveau correct.
Et sinon, vous gagnez beaucoup de matchs?
Nos deux derniers matchs, on les a perdus. Sinon, on a fini premier du dernier championnat.
C'est cool.
Ouais, ça va, c'est... J'avais marqué 7 buts et 9 passes D.
Décris-nous un peu ton sport, enfin explique-nous un peu les règles pour ceux qui connaissent pas.
Ben en fait, vous avez un ballon de foot. Après par exemple, faut faire des passes, faut faire des centres pour pouvoir tirer dans les cages adverses.
Et est-ce que tu aurais une petite phrase de fin pour
croyez en vos rêves.
Bon, est-ce que vous avez aimé? Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup Aïcha de nous avoir présenté ce sport que tout le monde connaît, le football. Maintenant, Lenny va nous faire découvrir ce groupe de rock légendaire avec la voix inoubliable de Freddie Mercury.
Salut à tous, je m'appelle Lenny et je vais vous raconter l'histoire de mon groupe préféré, Queen. Queen est un groupe de rock britannique originaire de Londres, en Angleterre. Il est formé en 1970 par Freddie Mercury, Brian May et Roger Taylor, ces deux derniers étant issus du groupe Smile. L'année suivante, le bassiste John Deacon vient compléter la formation. Les quatre membres de Queen sont tous des auteurs-compositeurs, chacun apportant une touche unique à l'identité musicale du groupe. Moi, ce que j'aime dans ce groupe, c'est justement ce dont on parlait juste avant. L'identité musicale du groupe. Queen est un des premiers groupes à avoir donné plus de branches au monde du rock. Comme par exemple, dans leur chanson, on peut passer d'un passage calme au piano à un passage à la guitare électrique qui arrache la tête. C'est ça que j'aime chez eux. Grâce à son succès et son influence, Queen est considéré comme étant l'un des plus grands groupes de rock britannique de l'histoire. La formation a vendu plus de 300 millions d'albums à l'échelle internationale en 2009, dont 32,5 millions aux États-Unis. Queen est aussi l'un des premiers utilisateurs du clip vidéo, ayant exploité ce mode de communication dès 1975. En 1991, le groupe fait face à la mort prématurée de Freddie Mercury, atteint du sida, chanteur et icône de la formation. Malgré cela, Queen continue d'exister via différents projets et collaborations et a conservé une popularité ainsi que de très nombreux admirateurs inconditionnels dans le monde entier. En 1983, plusieurs membres du groupe s'essayent à une carrière en solo. Un an plus tard, ils se retrouvent pour enregistrer un tout nouvel album, The Work, un de leurs plus grands albums. Tout de suite, une des chansons de cet album.
Gaga.
Vous êtes encore sur le Radio Louise Michel. Merci beaucoup. Maintenant, on est avec la légende de Japelou.
On change d'ambiance, direction l'univers du cheval avec Lola et Andrea.
Bonjour à tous. Nous sommes Lola et Andrea et aujourd'hui, on va vous présenter une de nos passions, le cheval. Dans cette chronique, on va vous parler d'une histoire qui nous a beaucoup touchés, entre un cavalier et son cheval qui s'appelle Japelou.
La légende de ce petit cheval, Japelou, a débuté en 1980 lorsque Pierre Durand décide de devenir son propriétaire. Avant ce duo, l'équidé avait pour réputation de mettre tous ses cavaliers à terre. Seulement 4 ans après son acquisition, Pierre décide d'amener son nouveau protégé aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984.
Japelou, né le 12 mars 1975 dans la ferme équestre d'Henri Delage, à Saint-Savin, son père est un trotteur français peu connu du nom de Tyrol II. Sa mère, une vieille jument pur sang de course, s'appelant Vénérable. Ce type de croisement n'ayant jamais rien donné d'intéressant, il est parfois qualifié d'accident de peinture. Son éleveur fait toutefois savoir que ce croisement ne doit rien au hasard.
Le cavalier refuse d'abord de l'essayer, l'annonçant trop petit. Car oui, il mesurait seulement 1m58. En revanche, le cheval montre de très grandes facilités, malgré sa taille modeste. Mais Japelou est si petit que cette caractéristique aurait pu l'empêcher de faire une carrière internationale. Pierre Durand revient sur sa décision un an plus tard, en voyant Japelou sauter. Le cheval est caractériel et désobéissant, mais possède un extraordinaire coup de saut. Il contacte aussitôt l'éleveur et Japelou ne l'a depuis plus quitté. Au début de sa carrière, il est sponsorisé par la maison Deluse, d'où une modification de son nom en Japelou Deluse. Il évolue 2 ans sous la selle de François Terrier Tuot, puis le cavalier Pierre Durand l'acquiert.
Il remporte de très nombreux titres, dont ceux des champions olympiques, des champions d'Europe et de champions de France. Japelou est considéré comme l'un des chevaux de saut d'obstacle les plus performants de tous les temps, malgré ses origines et sa hauteur au garrot de seulement 1,58 m, ce qui est relativement faible pour concourir de cette discipline.
Japelou fait un malaise lors des premiers Jeux équestres mondiaux en Suède, après les épreuves par équipe en 1990. Pierre Durand décide de le mettre enfin à la retraite, bien mérité. Pour la mise à la retraite de Japelou en 1991, un jubilé est organisé au Champ de Mars, à Paris, au pied de la Tour Eiffel, avec une compétition de saut d'obstacle et réunissant les 25 meilleurs cavaliers du moment.
Le cheval meurt le 5 novembre 1991, soit 2 mois plus tard. Âgé de seulement 16 ans, des suites d'un arrêt cardiaque, le cavalier recevra de très nombreuses lettres de soutien. La tombe de Japelou sur la commune de Saint-Cyrien sur l'île reçoit régulièrement des visites émues. Il laisse une trace indélébile dans l'histoire du sport et devient l'un des chevaux les plus connus du pays. C'est le dernier cheval français à avoir remporté la médaille d'or olympique en saut d'obstacle en 1988.
Pierre Durand le qualifie de cheval de sa vie. Japelou enchaîne les parcours dans un style irréprochable, vole au-dessus des obstacles culminant jusqu'à 1m70. Il fait tout cela avec une générosité mémorable. Si bien que Pierre Durand lui passe la médaille sur le poitrail pour le remercier. Il déclare même « Mon seul adversaire, c'est moi-même ».
L'histoire de ce cheval nous a beaucoup touchés et elle passe beaucoup sur les réseaux. C'est d'ailleurs comme cela que nous avons trouvé une passion pour son histoire. Nous espérons que cela vous a plu.
RLM,
la radio du collège Louise Michel non truqué.
C'est sur Radio Escapade.
Merci les filles de nous avoir raconté l'histoire touchante et vraie de Japelou, un petit cheval devenu champion olympique.
Maintenant, on passe à Mélanie qui va nous raconter le métier d'éleveur de brebis.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un métier qui est éleveur de brebis. C'est un métier très dur mais joli. C'est quoi un éleveur de brebis ?
C'est des éleveurs qui utilisent les brouillés pour les fromages, les pélardons, pour la viande, la laine, pour les matelas et les couvertures. Et les éleveurs leur donnent à manger, font la traite, leur font sortir quand il fait beau. Je vais vous parler du salaire. Un éleveur de brouillés gagne 1500 euros au SMIC. Les études se font en lycée agricole. On peut commencer à partir de la quatrième et finir par un diplôme, le CAP. Se prépare 2 ans après la troisième. Il y a aussi un certificat spécialisé au vin, en formation au vin et formation 6 mois, 1 an. Pour être salarié, ça peut aller jusqu'au bac. Je vais vous parler du Roquefort qui est produit avec du lait de brebis. Au début du 20e siècle, les fabricants de Roquefort installent des fromageries en Béarn et au Pays Basque pour produire du Roquefort et développent la production de lait de brebis dans les Pyrénées-Atlantiques. Le lait est transformé en Roquefort et les fromages en blanc. Ils sont transformés jusqu'à Roquefort sur Soulson, où ils seront affinés et mûris dans la cave à Fleurine emblématique du Roquefort. Jusque dans les années 1970, les entreprises ont continué à s'approvisionner dans les Pyrénées-Atlantiques car la production de lait de brebis n'était pas suffisante dans les départements de la zone autour de Roquefort-Soulzon. À partir de 1975, le développement local du lait de brebis en Occitanie s'est accru et les entreprises de Roquefort ont ramené leur approvisionnement en lait de brebis à l'aire de production actuelle appelée communément le rayon de Roquefort. Et on arrêtait la collecte du lait dans les Pyrénées-Atlantiques. Merci d'avoir écouté ces chroniques et bonne journée.
Vous les croisez tous les jours, mais les connaissez-vous vraiment?
Ilao et Raphaël sont allés interviewer les surveillants du collège et écouter ce qu'ils leur ont demandé.
Quel est ton métier?
Je suis AED, surveillant.
Est-ce que t'aimes bien ce métier?
Bah oui, moi j'aime beaucoup.
Et pourquoi?
Parce qu'il faut être polyvalent, il y a plusieurs postes, on tourne régulièrement et on est au contact avec les élèves. C'est très intéressant.
Tu trouves que c'est stressant ?
Pas stressant, des fois il y a des problèmes dans la cour ou entre certains élèves, mais c'est pas spécialement stressant.
Et qu'est-ce que tu penses de l'organisation du collège et des décisions qu'ils prennent ?
Ça peut être compliqué, ça dépend des organismes, ça dépend des... entre les profs, les AED, la direction, des fois ça manque un peu de communication. On ne nous demande pas forcément notre choix, en fait, notre avis.
Est-ce que tu t'entends bien avec le reste du personnel du collège ?
Oui, très bien, oui. Moi, avec le personnel qui nettoie, les profs en général et la direction, j'ai pas de problème.
Est-ce que tu penses que tu as un rôle à jouer dans la lutte contre le harcèlement scolaire ?
Ah oui, bien sûr, puisque nous, on est un peu le relais entre les élèves et les profs. Et donc je pense qu'on peut avoir une oreille attentive vis-à-vis de certains élèves qui ont besoin de se livrer et qui n'y arrivent pas avec certains adultes.
Ok. Est-ce que tu penses que tu as un rôle à jouer dans l'éducation des élèves ?
Ah ça oui, bien sûr, ça fait partie du jeu. Je peux en études parfois aider les élèves, avec les devoirs faits aussi je fais ça, les accompagner aussi sur leur suite, sur ce qu'ils veulent faire plus tard, la suite de leurs études, etc. Ou un futur métier, donc c'est un rôle clé là-dessus, oui. C'est évident.
Qu'est-ce que t'en penses de l'autorité ? Comment tu gères ça ?
L'autorité, c'est délicat parce que ça peut être... Il y a plusieurs possibilités et du coup, chacun a une manière de faire qui est différente. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire à peu près tous la même chose pour qu'on aille tous dans la même direction. Si les surveillants ne travaillent pas de la même manière, ça risque d'être un peu compliqué parce que les élèves ne vont pas réagir de la même manière en fonction des gens. Du coup, l'autorité fonctionne à partir du moment où on arrive à mettre des règles communes et qu'on arrive à les respecter ensemble.
Est-ce que tu trouves que tu as bien été formé ?
Je me suis formé tout seul, entre guillemets, parce que j'ai eu quelques informations l'année dernière, mais qui se sont faites en milieu d'année, donc on connaissait déjà un peu le boulot. Et comme on est une bonne équipe, on s'entraide beaucoup et donc on se forme un peu nous-mêmes.
Ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelque chose qu'on ne sait pas de toi ?
Avant d'être AED, j'habitais à Nantes et j'étais AES, accompagnant éducatif et social pour des personnes handicapées.
Je vois, ben merci.
Alors Ilao, dis-nous, comment ça s'est passé cette interview ?
Ben cette interview, elle s'est plutôt bien passée. Bah ben, franchement, il y a pas mal de des choses que je pensais sur les surveillants qui se sont avérées être vraies. Et bah, c'était assez intéressant, du coup, on en a interviewé différents surveillants, et les avis sont à peu près les mêmes sur les questions par rapport à l'organisation et tout ça. Ce qui fait plaisir à voir, c'est que les surveillants sont quand même, malgré que ce soit parfois compliqué pour eux, toujours très impliqué. Et vraiment, ça, c'est super pour la vie collégienne. Après, même parfois, je trouve que peut-être le collège ne leur permet pas de s'impliquer sur certaines choses. Et que même certains surveillants seraient prêts à s'impliquer plus dans le cas du harcèlement et tout. Mais globalement, c'est quand même très bien d'avoir une si bonne équipe et tout. Et voilà, moi je voulais faire cette interview parce que finalement on les voit souvent et on ne sait pas trop comment, d'où ils viennent, pourquoi est-ce qu'ils font ça et comment ça marche. Donc c'était intéressant d'interviewer, demander pour avoir finalement des... Moi en tout cas j'avais ces questions-là sur les surveillants et ça fait plaisir d'avoir des réponses et qu'en plus les surveillants soient plutôt enthousiastes au fait de répondre à ces questions-là. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et peut-être que la prochaine fois, nous aurons une interview du directeur. On ne sait pas.
Merci beaucoup, Ilao.
Et maintenant, passons tout de suite à Arthur qui va nous parler d'un groupe de musique, le Linkin Park.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du groupe de musique Linkin Park. C'est un des groupes les plus connus du nu metal, qui a commencé en 1996. Le nu metal est un nouveau style de musique. Pour l'époque, ce style est un genre de metal. Il s'agit d'un genre fusion qui mêle des composants issus du métal à un large éventail d'éléments dont je ne vais pas citer la liste. À l'origine, Linkin Park est formé par trois amis d'université. Après avoir obtenu leur bac, ils s'intéressent plus sérieusement au monde musical et recrutent quatre musiciens. Hybrid Theory est l'album qui va les faire percer. Il est sorti le 24 octobre 2000, il est vendu plusieurs millions de fois. Alors que le mouvement de nu metal est en plein renouveau global, Hybrid Theory est bien reçu, puisqu'il obtient la certification disque d'or en un peu plus de 2 mois aux États-Unis, où il devient ensuite le plus gros succès musical de l'année 2001. Tout se passera bien pour ce groupe jusqu'à 2017, où le chanteur Chester va être retrouvé mort pendu avec une ceinture dans sa résidence en Californie. Son autopsie révèle qu'il avait consommé de l'alcool. Il est aussi présumé positif à une drogue dure. Le groupe a fait son retour en fin 2024 avec l'album From Zero, contenant 11 titres. C'est la chanteuse Emily Armstrong qui aura donc la lourde tâche de remplacer Chester Bennington. Je vous laisse avec les notes du morceau In The End. It starts with one. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go.
Maintenant, nous allons passer avec Arthur qui va nous parler des cloches. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler des cloches. Une cloche est un instrument de musique qui sonne pour les heures, les sonneries dominicales, les demi-heures et les angélus. Elles sont souvent dans les églises ou les mairies. On va parler de leur langage. Le langage d'une cloche est une sonnerie qui veut signaler quelque chose. Les cloches ont plusieurs sonneries. Voici les trois plus courantes. La première sonnerie est la sonnerie horaire qui est sonnée avec un marteau placé à côté de la cloche et qui tape un certain nombre de coups en fonction de l'heure. La seconde sonnerie est la demi-heure, elle est frappée par un coup unique. Enfin, la dernière sonnerie est l'angélus qui est sonnée 3 fois par jour à 7h05, à 12h05 et à 19h05. Le marteau tape 3 fois 3 coups avec une pause tous les 3 coups. Et la sonnerie est suivie d'une volée de 1 ou 2 minutes. Maintenant, voici les moins courantes. Les messes, le dimanche, sont sonnées par le plénum, une sonnerie de 1 ou plusieurs cloches. Cette sonnerie est joyeuse comme celle des mariages qui fait partie des moins courantes. Je dois aussi vous parler de la sonnerie du glas qui sonne très lentement, ce qui signifie en général un enterrement. Et enfin, il faut vous parler du tocsin. C'est une sonnerie de coups secs et rapides qui veut dire qu'il y a un danger. Par exemple, en cas d'incendie près du village. Maintenant, nous allons passer aux divers types de volées. La volée est le balancement de la cloche de haut en bas. La volée la plus répandue dans le nord de la France est la volée lancée franc. La cloche est propulsée à grande vitesse et le battant à l'intérieur de la cloche tape les parties supérieures de la cloche. La seconde est la volée rétrograde qui est répandue dans le sud de la France. Le balancement de la cloche est un peu plus lent et le battant tape les parties en bas de la cloche. Et enfin, la volée rétro-lancée, c'est que la cloche ne balance pas très haut mais que le battant est propulsé comme en lancé franc. En gros, un mélange des deux volées dont je viens de vous parler. Et on termine avec les différents moteurs qui servent à faire balancer une cloche. Il existe deux types de moteurs. Le premier, qui existe depuis une dizaine d'années, c'est le moteur à linéaire. Une plaque est fixée sur le clocheton ou beffroi. Le beffroi, c'est la structure qui abrite les cloches dans un clocher. Et une autre plaque est fixée sur le joug de la cloche, qui passe devant la première plaque avec un espace de 1 à 3 mm. La plaque qui est fixée sur le beffroi envoie des pulsions électriques, ce qui permet de faire balancer la cloche de haut en bas. À l'arrêt, la cloche s'arrête très vite, car la plaque électroaimant attire la plaque fixée sur le joug. Le deuxième moteur, qui existe depuis un peu plus longtemps, est le moteur électromécanique. Une roue est fixée sur le joug de la cloche et le moteur est indépendant de la cloche. Pour entraîner la cloche, il suffit d'une chaîne fixée sur l'axe du moteur et la roue. Le moteur prend beaucoup plus de temps à arrêter la cloche et fait du bruit alors que l'autre moteur est très silencieux. Je sais que ce sujet est très technique, mais c'est que j'adore ça et que je regarde des vidéos sur YouTube. Petite conclusion. Merci de m'avoir écouté et bon après-midi à tous sur Radio Louise Michel.
Dis-nous Arthur, pourquoi as-tu voulu travailler sur les cloches?
Parce que c'est un sujet que j'aime bien et donc je voulais un peu en parler pour vous expliquer comment ça fonctionne.
Et ben merci beaucoup à toi.
Et voilà, notre émission touche à sa fin.
Un grand bravo à tous les chroniqueurs et les chroniqueuses.
Merci à vous, auditeurs, pour votre écoute.
Et merci Raphaël à la technique. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.
Radio Louise Michel, la radio du collège de Ganges.
À très vite.
Bye.
Radio Louise Michel.
Radio Louise Michel.
La radio des collégiens de Gorge.
Radio Louise Michel, des blagues, des musiques, des infos, des interviews et encore plein d'autres choses sur Radio Escapade.